Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvrez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pilice, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous avançons dans cette question 109 de la prima secundae, donc certainement une des questions les plus importantes de la somme théologique tout entière. Dans ce magnifique traité sur la grâce, qui est un traité qu'il faut bien connaître surtout aujourd'hui. Nous avons tellement de tentations de naturalisme. En gros, l'homme moderne prétend, quand il croit encore au paradis, il prétend pouvoir y aller à la force du poignet. Ce naturalisme, si vous voulez, est lié évidemment à une exacerbation de la liberté, c'est du libéralisme aussi en même temps. Mais ce naturalisme va entraîner une erreur monumentale qu'on appelle le pélagianisme, dont j'ai déjà un petit peu parlé. Je voudrais en reparler aujourd'hui parce que tous ces articles de saint Thomas sont en fait des articles contre le pélagianisme. Le pélagianisme, c'est ça, c'est une tentation de penser qu'on peut sauver son âme tout seul, qu'on peut avoir la grâce du bon Dieu par nos propres forces, qu'on peut se maintenir sur le chemin qui mène au ciel par nos propres forces et même aller au ciel par nos propres forces. Il est évident que Bergoglio à Rome est totalement dans ces erreurs-là, dans ce naturalisme, surtout dans ce pélagianisme. D'ailleurs, le pélagianisme, il y a un point de catéchisme qui est nié. Le pélagianisme, en fait, les personnes tombent dans le pélagianisme pour deux raisons. D'abord par orgueil. C'est l'orgueil qui nous mène au pélagianisme, c'est l'orgueil qui nous fait croire qu'on est capable d'arriver au ciel par nos propres forces. Mais il y a aussi une deuxième raison pour laquelle le pélagianisme est tellement forte, et c'est la négation du péché originel. Il est évident que nous avons besoin du bon Dieu pour aller au ciel à cause du péché originel. La plupart des gens aujourd'hui, des catholiques modernes, pensent que le péché originel n'existe pas, ou qu'il est totalement détruit par le baptême, et donc il n'y a plus aucune conséquence du péché originel. Il nie totalement un point fondamental du catéchisme, sur lequel je ne vais pas revenir parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans ce cours, à savoir que notre intelligence, dont l'objet formel est le vrai, est viciée par l'ignorance. C'est-à-dire qu'après le péché originel, même si le péché originel est enlevé par le baptême, il reste des conséquences qu'on appelle les blessures. Et une des blessures les plus importantes, c'est justement la blessure de l'ignorance. Avant le péché originel, Dieu avait donné, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, donc je repasse rapidement, Dieu avait déjà donné à Adam et Ève l'intégrité, il y avait un ordre dans leur âme. Les différentes passions de l'âme étaient ordonnées, tout est ordonné sous le regard du bon Dieu. Mais qui est passion tout en bas, mais qui était contrôlé par la volonté contrôlée par l'intelligence et l'intelligence par Dieu. Cet ordre a disparu, c'est fini, c'est terminé, il n'y en a plus. Sauf si votre nom est notre Seigneur Jésus-Marie ou notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'ordre était parfait dans son âme. En Notre-Dame, l'ordre était aussi parfait dans son âme. Pour nous, ce n'est pas le cas, parce que le don d'intégrité a disparu totalement. Il est évident que les modernes, c'est clair et net pour Bergoglio à Rome, ils croient à l'intégrité de l'homme, ils croient que l'intégrité de l'homme est là, qu'il n'y a pas de péché originel, que tous les hommes sont bons et que la grâce est une partie de notre nature, tout simplement. Et puisque la nature humaine ne peut pas être détruite, donc la grâce ne peut pas être détruite, tous les hommes ont la grâce et tous les hommes vont au paradis. C'est pour cela qu'il a dit, glorieusement, il y a peu de temps, que les musulmans étaient des enfants du bon Dieu, en éliminant par cette phrase toute simple, tout simplement l'enseignement de 20 ans de catéchisme, 20 ans de doctrine de l'Église concernant le baptême. Si les musulmans sont les enfants de Dieu, donc il n'y a pas besoin de baptême pour aller au ciel. Alors, donc, attention à ce pélagianisme. Ce pélagianisme est tellement fort que, lorsqu'il a été attaqué, surtout par saint Augustin, il va revenir, si vous voulez, c'est comme une mauvaise plante qui pousse, on coupe la plante, mais s'il reste des racines, il va y avoir des rejetons qui vont revenir. Des rejetons vont revenir, ce qu'on appelle le semi-pélagianisme. Alors, je voudrais un petit peu vous... Rapidement, par un manque de temps, encore une fois, je ne vous donne pas un cours de haute théologie, je n'ai pas les moyens ni les compétences pour ça, mais j'essaie de vous donner un petit peu les choses les plus importantes pour vous faire comprendre ce qu'est justement ce pélagianisme. C'est en Afrique, donc le système pélagien fut dénoncé pour la première fois et condamné, donc dans la personne de Celestius par le concile provincial de Carthage en 411. Donc saint Augustin, informé de l'événement, en comprit immédiatement l'importance. Donc, et il va donc insister sur la chute d'Adam, donc pour répondre, enrayer si vous voulez cette erreur du pélagianisme, il va, saint Augustin, docteur de l'Église, va insister en répondant à une consultation du tribun Marcellin, donc il montre que la chute d'Adam est la vraie cause de la mort de l'homme et du péché que le baptême remet jusque dans les enfants. Alors voyons un petit peu ce que disaient ces pélagiens. Donc, au début, tout vient d'un trouble qui venait du fait que l'homme, aidé de la grâce, peut être sans péché, mais que de fait, il n'y a pas beaucoup d'hommes sans péché. Donc, saint Augustin va s'attacher à prouver, d'une part, la nécessité de la grâce intérieure pour observer la loi de Dieu, et d'autre part, l'infaillible défaillance de la volonté humaine sur quelques points. D'accord ? Alors, voyons un petit peu les enseignements des pélagiens, ces novateurs et modernistes de l'époque, s'étaient réfugiés tous deux en Orient. Et ils insistaient plus que jamais sur cette toute-puissance morale de l'homme qui était à la base de tout leur système. En gros, les pélagiens sont non seulement des naturalistes, mais aussi des gens, si vous voulez, qui tombent dans un orgueil absolument invraisemblable. Ce sont des humanistes. Donc, il défendait la possibilité pour l'homme d'être parfait par lui-même, rien que ça. Le pouvoir de ne pas pécher étant inséparable de la nature. Donc, à partir du moment où on a la nature humaine, on peut, par les forces de notre nature, d'après les pélagiens, on peut ne pas pécher. Donc, saint Augustin, évidemment, va opposer à ces gens-là la doctrine traditionnelle de l'Église. Pour justement bien montrer que sans la grâce du bon Dieu, on ne peut absolument rien faire. Alors, les pélagiens vont se cacher en partie, surtout après la condamnation par le magistère de l'Église. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'immédiatement, dès que le démon s'en va, d'une âme, il revient et essaie de revenir avec 7 démons pires que lui. Et c'est ce qui se passe. Le démon va revenir, va refaire un essai, un petit peu plus tard, avec une nouvelle doctrine qui est tout simplement un succédané de la première, donc une partie du pélagianisme un peu plus cachée qu'on appelle le semi-pélagianisme. Et ce semi-pélagianisme a eu beaucoup de force, malheureusement, en France, notamment à cause de certaines imprudences d'un très grand catholique qui s'appelait Cassien, un grand moine, qui a fait énormément de bien, entre autres en publiant le récit des aventures et des vies des pères du désert, il a fait énormément de bien par son livre, mais il avait un peu imprudent dans ce qu'il disait, ce qui faisait que sa doctrine était vite interprétée de travers par les pélagiens. Donc voilà ce que disait plus ou moins Pélage. On retrouve le pélagianisme, mais avec une certaine... on recouvre le pélagianisme d'un peu de sucre pour le cacher un petit peu. Ceci dit, Cassien était un homme droit, attention. Donc je ne dis pas que Cassien était semi-pélagianiste par lui-même ou pélagianiste par lui-même. D'ailleurs, il n'a jamais été en soi condamné par l'Église. Cependant, il était un peu imprudent dans certains de ses énoncés. Cassien avait une réputation de sainteté, et non seulement une réputation de sainteté, mais il est même Cassien est même considéré comme saint dans l'église de Marseille. Je crois qu'il a sa fête au 23 juillet. Bon, cependant, il était un peu imprudent dans certains de ses énoncés. On retrouve les mêmes imprudences, par exemple, parfois chez Saint Jérôme ou chez évidemment Tertullien et Origène. Donc voilà ce que disaient les semi-pélagiens. L'homme peut, sans la grâce, non pas accomplir le bien surnaturel, ça c'est le pélagianisme, mais le désirer et le vouloir. Il ne peut se donner la foi complète, mais il peut commencer à croire. C'est-à-dire, le pélagien disait, l'homme peut croire par ses propres forces. Le semi-pélagien dit, l'homme peut commencer à croire par ses propres forces. Deuxième point, il n'y a pas de prédestination absolue, pas plus que de réprobation. L'une et l'autre, considérées en Dieu, s'identifient avec la préscience des mérites ou les démérites de l'homme, et considérées dans l'homme, elles sont la conséquence de sa conduite. Donc c'est l'homme, d'après les semi-pélagiens, qui va déterminer par lui-même si il fait partie des élus ou non. Troisième point, Dieu, qui veut le salut de tous, l'offre à tous indifféremment, et de même que tous peuvent correspondre à la grâce, ils peuvent, s'ils le veulent, persévérer. Vous voyez ? Alors, c'est vrai que les hommes peuvent, s'ils le veulent, persévérer. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas persévérer sans la grâce du bon Dieu. Donc, les formules de Cassien étaient un peu imprudentes. Vous voyez ? Une espèce de mélange du vrai et du faux dans ces propositions qui les rendait donc à la fois dangereuses et difficiles à réfuter. Et j'ai vu le travail de Prosper d'Aquitaine, de Saint-Hilaire, Saint-Augustin, qui entreprirent donc de défendre la plénitude des droits de Dieu dans l'œuvre du salut humain. Il établit donc, Saint-Augustin va donc établir contre le pélagianisme, contre le semi-pélagianisme, la nécessité d'attribuer à Dieu même le commencement du salut, même le désir du bien. Il prouve ensuite que la prédestination ou préparation de la grâce est indépendante de toute prévision des mérites futurs. Dans le second traité, il montre que la persévérance finale est elle aussi un don spécial de Dieu, et il repousse ensuite les fausses conséquences que l'on tire de la prédestination. Il assure même qu'on peut en prêcher avec fruit la doctrine, qui se ramène à ceci, préscience et préparation des bienfaits divins, par lesquels sont infailliblement sauvés ceux qui se sauvent. Donc on voit très bien que dans cette doctrine de saint Augustin, qui est reprise et expliquée encore davantage après par saint Thomas dans la Somme, eh bien la vertu fondamentale qui est nécessaire, c'est la vertu d'humilité. C'est très important. Surtout aujourd'hui, derrière le modernisme, vous savez que Saint Pédis, quand il l'a condamné, a dit que c'était l'égout collecteur de toutes les hérésies. En gros, on met toutes les hérésies ensemble, on secoue un peu tout ça, on a le modernisme. Donc, puisque c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, il y a dans le modernisme du pélagianisme, qui est une hérésie. Mais en fait, la partie pélagienne de l'hérésie moderniste est très importante. Alors, il faut faire attention à ça pour nous maintenir dans l'humilité. Alors, il y a deux tendances, si vous voulez, deux erreurs qu'il faut éviter dans ce domaine. La première erreur, c'est de détruire complètement l'arbitre de l'homme et de dire que finalement, ben, l'homme ne fait rien du tout, c'est le Dieu qui fait tout. Et donc, on peut dire à ce moment-là que l'homme étant incapable de faire quoi que ce soit par lui-même, ben, c'est Dieu qui fait tout. dans l'homme. Et l'homme est purement passif, n'a absolument pas à faire quoi que ce soit, parce que de toute façon, Dieu demande à l'homme quelque chose d'impossible. Les commandements sont des choses impossibles à suivre aujourd'hui. Et donc, la seule chose qu'il faut, c'est croire en Dieu. On croit en Dieu, et puis à côté de ça, on peut faire n'importe quoi. Ça, c'est du protestantisme. Le protestantisme, c'est ça. Et c'est en fait la destruction du libre arbitre de l'homme. Deuxième erreur, qui consiste au contraire à pousser le libre arbitre de l'homme et en oubliant la toute-puissance de Dieu. Est-ce que l'homme, utilisant son libre arbitre, est capable de se mettre sur le chemin qui commence à le mettre, qui commence à aller vers le bon Dieu? La réponse est non. Alors, nous avons déjà vu donc les premières questions, nous avons déjà vu les trois premières questions, trois premiers articles, pardon, de la question 109. Donc, on en est à la page 80. Sur mon polycopier, alors, encore une fois, je m'excuse s'il y a des différences de pages. Donc, cherchez sur votre polycopier la première prima secondae, question 109, article 4. L'homme peut-il sans la grâce observer les préceptes de la loi? C'est la page 80. Bon, il peut y avoir des différences de pages à cause des rajouts que j'ai faits. Encore une fois, je vais essayer de vous mettre sur le polycopier, dès que, sur le site internet Dame Marie, dès que possible. Les polycopiers actuels avec les changements de page, vous y retrouviez plus facilement. Donc, on a déjà vu, première question, l'homme peut-il sans la grâce connaître quelque chose de vrai? On a déjà vu ça. La réponse est oui. Deuxièmement, l'homme peut-il sans la grâce de Dieu vouloir et faire quelque chose de bien? Sur un plan naturel, oui. Sur un plan surnaturel, non. Troisième question. L'homme peut-il sans la grâce aimer Dieu par-dessus toute chose? La réponse est bien sûr non. Donc voilà ce que disait saint Thomas d'Aquin. Notre intelligence peut atteindre par sa connaissance naturelle certaines choses qui sont au-dessus d'elle, comme c'est évident pour la connaissance naturelle de Dieu. Mais cela signifie que notre nature ne peut produire un acte qui dépasse les limites de sa puissance. Or, tel n'est pas l'acte qui consiste à aimer Dieu par-dessus tout, puisque cet acte, nous venons de le dire, est naturel à toute créature. Donc on peut naturellement, dans un état d'innocence, c'est le cas d'Adam et Ève, donc aimer Dieu plus que tout, mais à cause du péché originel, ça devient de plus en plus difficile pour nous. Donc, passons maintenant à l'article 4. Donc l'homme peut-il sans la grâce observer les préceptes de la loi? C'est donc, dit saint Thomas, l'hérésie pélagienne qui consiste à croire que l'homme puisse, sans la grâce, observer tous les commandements divins. Sans la grâce, l'homme peut observer certains commandements divins. Il y a des gens, des païens par exemple, qui n'ont jamais eu de tendance de tentation de vol. Bon, il y a un commandement qui dit tu ne voleras pas, et bien celui-là, il le suit. Mais il n'est pas possible, suit bien saint Thomas, sans la grâce du bon Dieu, d'observer tous les commandements divins. Pourquoi? À cause du péché originel. Donc, vous voyez, tout ça se retrouve parce que si je dis que je peux, sans la grâce du bon Dieu, suivre tous les commandements de Dieu, la conséquence, elle est immédiate. Donc, je n'ai pas le péché originel. Donc, les conséquences du péché originel n'existent pas en moi. Donc, le baptême a éliminé le péché originel à un tel degré que les puissances de mon âme sont toujours parfaites. Ne sont pas blessés par les conséquences du péché originel. Donc il n'y a pas d'ignorance, par exemple, dans mon intelligence. Il n'y a pas de malice dans ma volonté, il n'y a pas de faiblesse dans mon irascible, et il n'y a pas de concupiscence dans le concupiscible. Et donc je suis comme un ange. Alors, saint Thomas va expliquer qu'on peut accomplir les préceptes de la loi d'une double manière. D'abord, en ce qui regarde la substance même de l'œuvre, par exemple, s'il s'agit pour l'homme d'accomplir les œuvres de justice, de force ou de toute autre vertu. Sous ce rapport, l'homme, dans l'état de nature intègre, c'est-à-dire encore, c'est quoi ça? L'état de nature intègre, n'oubliez pas, la nature intègre, c'est la nature avant le péché originel. Il peut accomplir tous les préceptes de la loi, pas de problème. Et s'il n'en était pas ainsi, il n'aurait pas pu ne pas pécher. Il n'aurait pas pu ne pas pécher, étant donné que le péché n'est autre chose que la transgression des préceptes divins. Mais, dit saint Thomas, dans l'état de nature corrompue, c'est la nôtre actuellement, l'homme ne peut observer tous les préceptes divins sans la grâce qui vient guérir la nature. N'oublions pas que on ne peut pas passer de la lumière de nature, la lumière naturelle, à la lumière de grâce sans une intervention du bon Dieu. C'est impossible. Et bien sûr, on ne peut pas passer de la lumière de grâce à la lumière de gloire sans une autre intervention du bon Dieu, encore plus grande. Donc ça te met clair, dans l'état de nature corrompue, dans l'état qui est le mien actuellement, à savoir l'état de viateur, viateur ça veut dire celui qui est sur le chemin, via en latin c'est le chemin, la route. Donc je suis un viateur, je suis un pèlerin qui pèlerine vers le ciel, et à cause du péché originel qui peut-être n'est plus en moi parce que le baptême est passé, donc si je suis baptisé, ben, je n'ai plus de péché originel, c'est deux fois, mais les conséquences sont là. Donc je ne peux observer tous les préceptes divins sans la grâce qui vient guérir la nature. Donc la grâce est nécessaire pour moi pour que tout simplement je puisse observer tous les préceptes de la loi. Sur un autre point de vue, on peut observer, dit saint Thomas, donc on est toujours à la page 80 sur le polycopier, l'article 4, la question 109, on peut observer les préceptes de la loi, non seulement en ce qui regarde la substance même de l'œuvre, mais aussi quant à la manière de les accomplir, c'est-à-dire par charité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moyen naturel qui nous permet de pratiquer certains commandements de Dieu, certains préceptes de la loi. Naturellement, certaines personnes peuvent avoir des vertus naturelles, comme par exemple une certaine honnêteté, une certaine douceur. Vous avez des païens qui sont des bandits sur des tas de choses, mais qui peuvent avoir certaines vertus naturelles. Il y a des païens qui ont une certaine sagesse, il y a des païens qui ont une certaine honnêteté naturelle sur certains points, mais il manque toujours quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il manque la grâce. Donc, dit saint Thomas, on peut observer les préceptes de la loi non seulement en ce qui regarde la substance même de l'œuvre, mais aussi quant à la manière de les accomplir, c'est-à-dire par charité. La charité, attention, la charité étant une vertu surnaturelle, c'est une vertu donnée par Dieu. Donc, que ce soit dans l'état de nature intègre, avant le péché originel, ou dans l'état de nature corrompu, l'homme est incapable, sans la grâce, d'observer tous les préceptes de la loi. Vous voyez ce qu'il veut dire? Donc, il dit que non seulement on ne peut pas, dans l'état de nature intègre, pour Adam et Ève, là, il dit que non seulement Adam et Ève n'étaient pas capables, sans la grâce du bon Dieu, d'observer les préceptes de la loi, mais à plus forte raison, aujourd'hui pour nous, après le péché originel, même après le baptême, nous sommes encore plus incapables d'observer les préceptes de la loi. Donc c'est Dieu qui maintenait déjà Adam et Ève dans leur vie dans le paradis terrestre. Et donc si Dieu ne maintenait pas un petit peu comme un joueur qui maintient les fils de la petite marionnette, eh bien si Dieu ne bouge pas les fils, la marionnette peut rien faire par elle-même. Ceci dit, encore une fois, attention, il faut, tout en expliquant ces textes très importants de saint Thomas, éviter, encore une fois, de tomber dans l'excès inverse qui consiste à dire, moi, à ce moment-là, l'homme n'est plus capable de rien faire. L'homme est capable de rien faire, l'homme est capable, pardon, de faire quelque chose, justement, à condition que Dieu l'ait déjà mu à l'intérieur de son âme. D'accord? Donc, dans les deux cas, l'homme a toujours besoin du secours de Dieu qui le meut à accomplir les préceptes. Donc, ce que nous ne pouvons faire qu'avec le secours divin ne nous est pas tout à fait impossible. Le précepte de l'amour de Dieu, dit saint Thomas, l'homme ne peut pas l'accomplir par ses seules forces naturelles de la manière dont il est accompli par la charité. Donc, l'homme peut avoir une certaine bonté naturelle, mais il ne peut pas avoir une bonté surnaturelle sans la grâce du bon Dieu. Et c'est très important de faire cette distinction. Je vous en ai déjà souvent parlé dans ce cours. Les gens modernes mélangent tout. Ils mélangent la charité naturelle et la charité surnaturelle. Est-ce qu'un homme païen, sans la grâce du bon Dieu, peut avoir de la charité naturelle? Oui. Vous avez encore une fois des païens qui sont peut-être des gens qui ont beaucoup aidé les pauvres, qui vont organiser une soupe populaire, par exemple, pour nourrir les pauvres pendant l'hiver quand il fait froid dans la rue. Je connais des gens qui sont des païens, qui vivent tranquillement avec la femme du voisin dans le communage le plus complet, mais qui vont avoir un cœur rempli de commisération en voyant un SDF dans la rue qui tremble de froid et qui vont aller chez eux lui chercher une couverture et lui donner une couverture pour qu'il ne meure pas de froid, même pas froid sur le trottoir. C'est un acte de charité, mais c'est de la charité naturelle. C'est bon, c'est évident qu'une charité naturelle, c'est mieux d'avoir une charité naturelle que pas de charité du tout. Mais une charité naturelle ne vaut rien au niveau des mérites. Ce n'est pas la charité naturelle qui nous place sur le chemin qui mène au ciel. Encore une fois, vous avez des gens qui pratiquent la charité naturelle à longueur de journée, une espèce de... Vous avez beaucoup d'organisations comme ça, qui sont des organisations qui aident les sans domicile fixe, des organisations de charité naturelle qui organisent des tas de choses. Je pense par exemple à des organisations, même des organisations maçonniques comme le Rotary Club et des choses comme ça, comme des fausses religions, même comme les témoins de Jéhovah font des choses comme ça, aussi l'armée du salut. En Australie, il y a beaucoup de cas comme ça, l'armée du salut faisait beaucoup de bien sur un plan purement naturel, mais il manque l'essentiel. J'ai vu des soldats de l'armée du salut en Australie, mais qui faisaient des choses admirables sur le plan humain. Et ils étaient capables pour Noël d'aller passer des heures et des heures et des heures et des heures à la sortie d'un grand magasin avec une petite tirelire devant eux, avec leur uniforme spécial, et puis ils sonnaient une petite cloche à longueur de journée pendant des heures et des heures pour solliciter les dons pour nourrir les pauvres. Et les gens donnaient. Parce que l'armée soviétique est très connue là-bas. C'est admirable sur un plan naturel. Ce monsieur qui... J'ai connu des gens à l'armée du salut, parce que j'ai eu l'occasion de... Je louais une maison de retraite pendant un temps dans cette armée du salut à Brisbane pour y prêcher les retraites, ce que j'ai le droit de faire, parce que j'avais rien, ça n'avait rien à voir avec leur foi, mais ils louaient leur bâtiment, donc je les ai loués pour prêcher les retraites. Et donc j'ai appris à connaître un peu ces gens-là. Certains avaient des grandes vertus naturelles, des gens qui travaillaient toute la journée, qui avait un travail pour nourrir la famille, et le soir, à 19h le soir, ils se retrouvaient avec d'autres personnes de l'armée du salut, et puis ils repartaient pour faire la soupe populaire pour les pauvres, ou pour aider à des pauvres repris de justice qui sortaient de prison, ou des gens qui avaient d'énormes problèmes avec la drogue ou l'alcool. Mais tout ça, c'est du domaine naturel. Est-ce qu'à cause de cela, ces gens-là peuvent, est-ce qu'on pourrait dire, ces gens-là, c'est sûr, ils vont aller au ciel à cause de tout le bien qu'ils font. Attention, c'est un bien purement naturel. Hein. Rappelons-nous l'enseignement de Saint Thomas d'Aquin, qui est clair, qui reprend l'enseignement de Saint Augustin. L'homme ne peut pas, sans la grâce, observer les préceptes de la loi. L'homme ne peut pas, sans la grâce, aimer Dieu par-dessus toute chose. L'homme ne peut pas, sans la grâce de Dieu, vouloir ou faire quelque chose de bien sur un plan surnaturel. Alors, est-ce qu'il est possible pour un païen d'avoir un sentiment naturel pour un pauvre? Oui, mais c'est du domaine naturel. Vous voyez comment aujourd'hui on mélange tout. Et on voit très bien chez Bergoglio qu'il mélange tout parce que le surnaturel, il s'en contrefiche, c'est absolument évident. Hein, cet homme se moque totalement de l'enseignement traditionnel de l'Église. Il est plus catholique, on peut se demander s'il l'a jamais été. Peut-être qu'il n'a jamais été. Et ça explique tout ce qui est fait actuellement, parce que justement, il ne voit plus que la nature. Que la nature, le naturel, et tout le reste est totalement, totalement éliminé. Alors, il faut, vous voyez bien, éliminer par tous les moyens, donc c'est cette erreur pélagienne qui fait que on croit que sans la grâce, il est possible d'observer tous les préceptes divins. Donc si je dis, sans la grâce, je peux remplir tous les commandements de Dieu, je suis un pélagien, c'est-à-dire un hérétique. Si je dis, sans la grâce de Dieu, je peux commencer par ma propre nature, par mes propres forces, à me mettre sur le chemin qui va me permettre, avec la grâce du bon Dieu, d'observer tous les commandements divins, je suis un semi-pélagien et je suis aussi un hérétique. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste qu'il faut faire totalement confiance au bon Dieu. Je ne peux pas, sans la grâce du bon Dieu, suivre les préceptes de la loi. Donc je dois m'humilier, demander au bon Dieu la grâce qui pour m'aider à cela. Le bon Dieu ne refuse jamais sa grâce à celui qui la demande avec humilité. Et donc le bon Dieu va donner les grâces dont j'ai besoin. Alors, voyons un petit peu ces textes de saint Thomas pour bien les comprendre. Donc, rappelez-vous les phrases clés de la somme de saint Thomas dans cet article 4. Donc, Adam pouvait, avant son péché, observer tous les préceptes d'un certain côté, mais dans l'état de nature déchu, l'homme ne le peut pas sans le secours de la grâce qui guérit la nature. Donc, D'accord? Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour saint Thomas d'Aquin, pour ce qui est d'accomplir les préceptes divins par la charité, la grâce a toujours été absolument nécessaire, même avant le péché originel. Hein? Ce que dit saint Thomas, il faut bien se rappeler cette phrase qui est un peu compliquée, un peu difficile à comprendre et à accepter. Que ce soit dans l'état de nature intègre, Adam et Ève avant le péché originel, ou de nature corrompue pour nous après le péché originel, l'homme est incapable, sans la grâce, d'observer les préceptes de la loi. Hein? Alors, sur un certain point, l'homme peut, sans la grâce du bon Dieu, accomplir les préceptes de la loi, en partie au moins, s'il n'a pas le péché originel, s'il n'a pas ces deux pieds dans la boue. L'homme avec le péché originel, c'est comme si vous voulez, un homme qui est tombé dans un marécage, et dans des sables mouvants, et plus il bouge, plus il s'enfonce. Donc il est bien obligé de se sortir de là. Il ne peut pas sortir de là par lui-même. Imaginez quelqu'un qui est enfoncé dans un sable mouvant et qui dit « Je vais m'en sortir par moi-même parce que j'ai des forces, j'ai des gros muscles, je vais m'en sortir par moi-même. » Et plus il dit ça, plus il s'enfonce. Et il faut bien qu'il accepte la corde qui lui est tentée. Qui est tendu, pardon, c'est comme un homme qui est tombé dans un puits, qui ne peut pas s'en sortir par lui-même. Et l'homme ne peut rien faire, il essaie de monter aux parois, il ne peut pas parce que les parois sont trop lisses, c'est trop glissante à cause de l'eau. Alors le bon Dieu tend une corde. Et le bon Dieu non seulement tend une corde, mais va donner à l'homme qui est au fond du puits la force nécessaire pour accepter par humilité de saisir la corde, pour s'en sortir, non pas par lui-même, mais s'en sortir grâce à la corde qui est donnée par Dieu et grâce à l'idée que Dieu a mis dans la volonté de cet homme au fond de son puits, de saisir la corde pour sortir du puits. On voit bien l'importance de la vertu d'humilité. Hein. Alors, certaines objections qu'on entend souvent, il est écrit que les infidèles font naturellement ce que la loi prescrit dans certains cas. Et saint Augustin va répondre en disant « À qui doivent-ils, sinon au Saint-Esprit, qui par sa grâce répare en eux l'image de Dieu primitivement imprimée sur notre être, en notre être ?» Dieu peut donner à certains païens certaines grâces. Ce n'est pas la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante est incompatible avec le péché originel. Mais il peut donner à certains païens certaines grâces actuelles qui vont amener lentement le païen à regretter ses péchés et à demander le baptême. Est-ce qu'il est possible pour un païen de s'approcher de la mission et de venir demander le baptême au père de la mission pour devenir catholique sans la grâce du bon Dieu? Impossible. Est-ce qu'un païen peut, par ses propres forces, trouver par lui-même qu'il faut qu'il devienne catholique et aller à la mission pour demander le baptême au père? Est-ce qu'il peut le faire par ses propres forces? Non. Dieu doit lui donner une grâce pour qu'il puisse commencer à se poser les bonnes questions, utiliser son intelligence dans le bon sens et chercher le bon Dieu et le trouver à la mission par l'intermédiaire du baptême. Deuxième objection qu'on entend très souvent, mais dans ce cas-là, ne peut-on pas dire que Dieu impose à l'homme des préceptes impossibles à remplir? On entend ça tout le temps. Et saint Augustin répond non. Ce que nous pouvons avec le secours de Dieu nous est possible. La pratique des commandements de Dieu dans leur intégralité est impossible sans le secours du bon Dieu. Mais le secours du bon Dieu n'est pas refusé, surtout à qui les lui demande avec humilité. Est-ce que je peux demander ce secours par mes propres forces? Non, parce que Dieu doit aussi me donner une grâce qui va m'amener à me poser les bonnes questions et demander d'être aidé par le bon Dieu. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, qu'est-ce qui reste du libre examen, du libre arbitre là-dedans? Il ne reste pas grand-chose. Eh bien, c'est faux. Parce que, si vous voulez, Dieu fait tout, mais il veut une petite collaboration de l'homme. Mais c'est lui qui fait tout le travail. Il y a un texte du Concile de Trente qui explique très bien ça et qui dit, Dieu ne commande pas l'impossible, dit le Concile de Trente, mais en commandant, il avertit de faire ce que l'on peut, de demander ce que l'on ne peut pas, et il aide afin qu'on puisse le faire. Alors, avançons dans saint Thomas d'Aquin, avec cette fois-ci l'article 5, donc sur mon polycopie, on a la page 80, en bas de la page, Sans la grâce, l'homme peut-il mériter la vie éternelle? Bon. La réponse est évidente. La réponse est bien sûr non. Pourquoi? Parce que pour mériter la vie éternelle, il faut passer la lumière de nature, à la lumière de grâce. Et la lumière de grâce, à la lumière de gloire. Le passage, mériter la vie éternelle, c'est quoi? C'est de rentrer dans la gloire du bon Dieu? C'est changer de lumière? C'est passer d'une certaine façon de la philosophie à la théologie? C'est passer des choses rationnelles à des choses qui dépassent la raison? Le paradis dépasse la raison. Donc l'homme ne peut pas mériter la vie éternelle sans une grâce spéciale du bon Dieu. La grâce de Dieu, d'ailleurs, on dit, c'est la vie éternelle. La grâce du bon Dieu, c'est déjà une participation ici-bas de la vie éternelle. Alors cependant, il faut bien remarquer, ça c'est très important à expliquer, que la vie éternelle est une fin qui dépasse la capacité de la nature humaine. La grâce du bon Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous conduit à la vie éternelle par sa miséricorde. Mais sans l'usage de la miséricorde du bon Dieu à notre égard, personne d'entre nous n'est capable de mériter la vie éternelle par lui-même. Parce que, si vous voulez, une toute petite nature ne peut pas exiger de monter au niveau d'une nature considérablement plus grande qu'elle. C'est absolument impossible. Vous voyez, comme l'orgueil détruit tout. Et on revoit, reprenez tous ces textes magnifiques de Saint Pédis dans Pachendi de 1907. Saint Pédis explique bien justement que la racine du modernisme, le modernisme étant l'égout collecteur de toutes les hérésies, un des points essentiels du modernisme, je vous l'ai déjà dit, c'est le naturalisme. Le naturalisme qui entraîne le pélagianisme. Eh bien, à la racine de tout ça, c'est l'orgueil. Bon, si l'orgueil est à la racine du pélagianisme, du naturalisme, de l'humanisme, si l'orgueil est à la racine du modernisme, tout simplement, il est évident que l'humanité sera à la racine du contre-modernisme. Le contre-modernisme, c'est quoi? C'est la foi catholique. Donc voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin, donc article 5. L'homme ne peut pas, par ses seules forces naturelles, produire des œuvres méritoires qui soient proportionnées à la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sous la même lumière. J'ai déjà expliqué, je reprends ça, c'est très important à comprendre. Force naturelle, c'est quoi? C'est la lumière de nature. Vie éternelle, c'est la lumière de gloire. Donc, pour passer la lumière de nature à la lumière de gloire, il faut d'abord passer par une lumière de grâce, et à partir de la grâce, monter à la gloire. Donc, il y a trois étapes, la nature, la grâce, la gloire. Et la vie éternelle étant infiniment supérieure à la vie ici-bas, il est évident que pour pouvoir obtenir la vie éternelle, on a besoin d'une aide surnaturelle qui va élever notre lumière naturelle et passer à la vitesse supérieure. C'est la vitesse supérieure, c'est la lumière de grâce qui nous fait vivre en état de grâce pour pouvoir atteindre enfin la lumière de gloire au paradis. Bon, donc il lui faut nécessairement, pour produire des œuvres méritoires, il faut nécessairement à cet homme une efficacité supérieure qui est celle de la grâce. Donc sans la grâce, l'homme ne peut mériter la vie éternelle. Sans la grâce, l'homme ne peut mériter quoi que ce soit d'ailleurs. Il est absolument impossible, même si vous faites des milliards de choses excellentes sur un plan purement naturel, il est impossible de mériter quoi que ce soit si vous n'êtes pas en état de grâce. Si vous avez, je m'excuse de répéter ces choses-là, mais c'est très important à comprendre. Si vous avez acquis, de par vos bonnes œuvres en état de grâce, des milliards de mérites, et vous commettez un seul péché mortel, vous coupez le fil conducteur, le fil d'Ariane qui vous relie à Dieu, vous coupez le cordon ombilical avec le bon Dieu, et bien vos milliards de mérites, tout disparaît, il n'y a plus rien. Vous allez me dire, mais j'ai fait tellement de choses pendant 50 ans, j'ai vécu en état de grâce, j'ai acquis des mérites énormes, là je viens de faire une grosse bêtise, j'ai commis un péché mortel. Le bon Dieu ne va quand même pas oublier tout ce qui s'est passé auparavant. À partir du moment où vous avez commis un péché mortel, ou j'ai commis un péché mortel, tout le bien que j'ai fait auparavant sur un plan surnaturel, tous les mérites accordés par le bon Dieu dans sa miséricorde, tout ça a disparu, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'on appelle un péché, péché mortel. Et quand je vois parfois des jeunes ou des moins jeunes qui sont capables de rester dans le péché mortel pendant des années, alors qu'ils pourraient se confesser, si vraiment ils le voulaient, eh bien ça veut dire que ces jeunes n'ont rien compris, n'ont pas encore compris ce que c'est qu'un péché mortel. Qu'au contraire, je vois un jeune, ou un moins jeune, qui a commis le malheur d'avoir commis un péché mortel, qui prend son téléphone pour téléphoner à l'abbé et qui fait 150 km pour aller se confesser à un prêtre non-nakoum immédiatement, parce qu'il ne veut pas rester en état de péché mortel, parce qu'il a compris ce que c'est que le danger d'un péché mortel. Eh bien, ce gars-là, cette personne-là, oui, il a la foi. Il y a des choses qui sont des urgences. Il faut traiter les urgences rapidement. Imaginez un monsieur qui arrive avec un AVC à l'hôpital, l'infirmier ou le médecin de garde va pas dire « Oh, il est 6 heures du soir, moi c'est l'heure de monter, j'ai pas le temps, on verra ça plus tard, posez ce gars-là qui est avec un AVC, en plein arrêt cardiaque, posez-le là sur la table d'examen, puis je vais aller prendre mon thé tranquillement, puis je reviendrai dans une demi-heure m'en occuper. » Bien sûr que non. Si vous faites ça, vous êtes un assassin, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il faut s'en occuper immédiatement, c'est des choses très importantes. Autre exemple que je donne souvent, c'est pour aider les gens à expliquer. Imaginez que vous rentrez dans votre maison et puis que vous sentez une odeur de gaz. Manifestement, il y a un fuite de gaz dans l'arrivée du gaz à la cuisine. C'est embêtant. Bon, ça sent le gaz à planer dans la cuisine. Je ne connais pas un seul homme qui va dire « Oh, monsieur, ça sent le gaz, on peut tous sauter, on va tous brûler cette nuit, mais ouh, je suis fatigué, j'ai une journée pénible au travail, je verrai ça demain matin. » Demain c'est samedi, je ne travaille pas, donc demain matin je m'occuperai de la fuite de gaz, ou on va vaguement ouvrir la fenêtre pour que ça ne sente pas trop mauvais, et on va aller tranquillement faire nos affaires. Mais monsieur est un assassin, vous risquez de faire sauter la maison, tous ceux qui sont dans la maison avec, et la maison d'à côté en plus. Voyons très bien comment, encore une fois, sans la grâce du bon Dieu, rien ne peut être fait. Alors, cette phrase est clé dans le texte de saint Thomas d'Aquin, une phrase clé. L'homme ne peut donc, sans la grâce, mériter la vie éternelle. Ce qu'il peut faire, dit en fait c'est une phrase de saint Augustin là. Ce qu'il peut faire, ce sont des œuvres qui lui permettront d'atteindre quelque bien qui lui soit connaturel. Il peut cultiver son champ, il peut boire, manger, avoir un ami, faire des actes de charité naturelle. C'est sa réponse contre les pélagiens. Pélagien répondait, objectait ça à Saint-Augustin, mais l'homme est capable de faire du bien naturel. Oui, dans un domaine purement naturel. On n'est pas dans le domaine surnaturel. On n'est pas au niveau de la grâce, on est au niveau de la nature. On ne peut pas monter au ciel avec la nature, on monte au ciel avec sa grâce, avec la grâce du bon Dieu. On ne monte pas au ciel par ses propres forces. Ce n'est pas l'homme qui met une échelle le long de son mur pour monter au ciel. L'échelle, les barreaux de l'échelle qui montent au ciel, qu'est-ce qui les place devant nous? C'est le bon Dieu. Qu'est-ce qui nous donne les forces de monter d'un barreau, une fois qu'on est sur un barreau, de monter au barreau suivant, et encore monter au barreau juste au-dessus? C'est la grâce du bon Dieu. Sans la grâce du bon Dieu, on ne peut absolument rien faire. Donc l'homme, c'est la conclusion en bas de la page 80, donc le texte de Saint Thomas, l'homme par sa volonté fait des œuvres méritoires de la vie éternelle. Mais, attention à ce mais, comme le dit encore Saint Augustin, il faut pour cela que sa volonté soit préparée par la grâce de Dieu pour observer les préceptes de la loi selon l'ordre qui rend méritoire leur observation. Il faut la grâce. Donc, sans la grâce du bon Dieu, je ne peux absolument rien faire. Je ne peux pas faire donc aucune œuvre méritoire pour la vie éternelle sans la grâce du bon Dieu. Alors vous allez me dire, mais est-ce que je peux être sûr que le bon Dieu va me donner les grâces? Bien sûr, le bon Dieu ne refuse jamais sa grâce à qui il lui demande, avec humilité. Et Saint Thomas répond à cette objection en disant que Dieu nous conduit à la vie éternelle par la miséricorde du bon Dieu. La grâce du bon Dieu, c'est la vie éternelle, dit Saint Paul. C'est Saint Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23. Donc, comme on l'a déjà vu, ça c'est très important de comprendre. Je réexplique le texte de Saint Thomas avec une légère variante pour être sûr que vous comprenez bien. La vie éternelle est une fin supérieure à la nature humaine. L'homme ne saurait parvenir par ses propres moyens. Donc il y faut, dès qu'il veut accomplir des œuvres proportionnées à une telle fin surnaturelle, une vertu plus haute, la vertu même de la grâce. La grâce étant quelque chose de surnaturel, donc au-dessus de la nature. L'intelligence, la volonté, c'est naturel, pas la grâce. Et c'est toute la racine de toutes les milliers d'hérésies propagées actuellement par Bergoglio et sa clique dans l'église de Vatican II, c'est qu'ils nient la nécessité de la grâce. Pour eux, encore une fois, la grâce est une partie de notre nature humaine. L'homme est naturellement bon, et donc tous les hommes doivent être considérés comme bons. Il faut les accepter, les tolérer, même les millions et les millions de centaines de milliers de migrants qui viennent tout détruire, tout casser, de violer, assassiner, voler. Il faut laisser tous ces gens-là rentrer partout, y compris dans ma maison, par charité. Attention, la charité n'empêche pas le bon sens. Le bon sens dit que charité bien ordonnée commence par soi-même, donc je vais protéger ma famille, je vais protéger mes enfants, pour que mes enfants ne soient pas attaqués par ces bandits. Donc, je puis, sans la grâce, faire des œuvres qui produisent un certain bien conforme à ma nature, hein, on a déjà expliqué tout ça, un bien naturel, mais mérité par mes propre force à vie éternelle, je ne le puis évidemment pas. Si je fais quelque œuvre qui soit méritoire pour le ciel, Dieu même a disposé ma volonté. Hein. Encore une fois, conclusion de saint Thomas, pour observer les préceptes de la loi selon le mode requis, c'est-à-dire avec la vertu surnaturelle de charité qui rend les choses méritoires, pour observer les préceptes, il faut la grâce du bon Dieu. Hein. Donc, parce que nous sommes doués d'une nature plus noble que celle des êtres corporels qui nous entourent. Nous avons été destinés à une fin supérieure à laquelle nous parvenons avec le secours de la grâce et que n'atteindront jamais les créatures inférieures à nous, des créatures non raisonnables. Nous sommes évidemment mieux partagés que celles-ci. L'homme qui peut parvenir à une santé parfaite avec le secours de la médecine est sans contredit dans des conditions meilleures que celui qui ne le peut d'aucune manière. Donc il faut avec humilité aller se mettre à la porte du bon Dieu, frapper à la porte. Rappelez-vous ce qu'il a dit, frappez et on vous répondra. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous répondra. Frappez et on vous ouvrira. Mais si je refuse de frapper et que je veux aller au ciel par mes propres forces, ça ne marchera jamais. C'est comme ça que ça se passe. Avançons maintenant avec l'article 6, donc en haut de la page 81, sur le polycopier. L'homme peut-il, sans la grâce, se préparer à la grâce? Vous voyez comment saint Thomas va rentrer même dans les détails. Je connais des catholiques modernes qui refuseront catégoriquement même de lire ces textes de saint Thomas. Ils vont vous dire, c'est épouvantable, saint Thomas détruit tout, l'homme n'a plus rien à faire, c'est le bon Dieu qui fait tout, c'est trop d'humilité, je veux faire les choses par moi-même, donc je ne lis pas ces textes-là, je ne m'intéresse pas à la doctrine traditionnelle de l'Église. Mais monsieur, vous allez rester en plan, vous ne pourrez pas aller au ciel. Voilà. Donc, voyons un petit peu cet article 6 donc de la question 109 de saint Thomas d'Aquin, de la Prima Secundae. Saint Thomas va répondre avec une citation, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. L'homme, naturellement, ne peut pas venir à notre Seigneur Jésus-Christ, sauf si Dieu met dans son âme une attraction surnaturelle pour qu'il puisse venir à Dieu. Il peut y avoir une attraction naturelle à venir vers le bon Dieu. Ça ne suffit pas. Il faut une attraction surnaturelle. Et c'est cette attraction surnaturelle qui va me mettre sur le chemin de la conversion. Mais est-ce que je peux avoir une attraction surnaturelle vers le bon Dieu sans une grâce du bon Dieu? La réponse est non. Mais si l'homme pouvait se préparer lui-même à la grâce, dit saint Thomas, il n'aurait pas besoin d'y être attiré par un autre, c'est donc qu'il ne peut le faire sans le secours de la grâce. La grâce est donc absolument nécessaire. Donc, il y a une double préparation de la volonté, donc Dieu va agir sur notre volonté. N'oublions pas que le but de la volonté, l'objet de la volonté, c'est le bien. Donc, le bon Dieu, quand il nous attire à lui, il ne nous attire pas à lui de façon indépendante de notre nature. Il nous attire à lui en travaillant sur notre nature. Pourquoi ? Parce que la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève, dit saint Thomas. Donc Dieu, en agissant sur nous par la grâce, va travailler avec la grâce sur notre intelligence et avec la grâce sur notre volonté. Avec la grâce de notre intelligence pour nous aider à atteindre vraiment de façon plus efficace le vrai, et avec la grâce, il va travailler sur notre volonté pour que nous puissions posséder le vrai et que nous puissions accéder à ce vrai. La connaissance du vrai, c'est le travail de l'intelligence. L'accession, l'accès à ce vrai, c'est le travail de la volonté. Donc il faut une double préparation, dit saint Thomas, de la volonté au bien. L'une, dit saint Thomas, dispose cette volonté à bien agir et à jouir de Dieu. Une telle préparation de la volonté ne peut se faire sans le don habituel de la grâce qui est au principe de l'œuvre méritoire. Don habituel, ça veut dire quoi, un don habituel? Don habituel, ça veut dire que c'est la grâce sanctifiante ici dont il s'agit. N'oublions pas, revenons à ces choses-là, on y reviendra plus tard, mais il faut bien que ça soit clair, c'est dans le catéchisme. Donc il y a la grâce actuelle qui est la grâce habituelle qui est la grâce sanctifiante, l'état de grâce, c'est-à-dire l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Notre âme devient un petit paradis si je suis en état de grâce. C'est la grâce habituelle, l'habitus de la présence de Dieu en moi. Dieu est habituellement vivant en moi parce que je suis en état de grâce. Et puis, il y a des grâces actuelles qui sont données par le bon Dieu pour nous aider à nous convertir, même si cette personne n'est pas en état de grâce. Donc, deux préparations de la volonté. Première disposition, première chose qui nous dispose à bien agir et à jouir de Dieu, c'est le don habituel de la grâce. L'autre préparation s'entend de cette disposition de la volonté humaine qui la rend apte à obtenir le don de la grâce habituelle. Il faut ouvrir la porte. Pour se préparer à la réception de ce don, on ne peut présupposer un autre don habituel dans l'âme, car on remontera ainsi à l'infini. Il faut donc présupposer un secours gratuit de Dieu qui meuvent l'âme antérieurement ou lui inspire le propos de bien faire. Si vous voulez ouvrir une porte qui est fermée à clé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord trouver la clé. Il faut que Dieu, qui veut que nous ouvrions la porte de notre âme, la porte de notre âme est fermée à double tour à clé. Dieu veut que nous retrouvions son amitié dans sa miséricorde. Donc il veut que nous ouvrions la porte. Qu'est-ce qu'il va faire? Si j'arrive par mes propres forces à la poignée de la porte et je tourne la poignée de la porte, ça ne s'ouvrira pas à la fermer à clé. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre d'abord la clé dans la serrure. Est-ce que cette clé, je l'ai dans ma poche? Non, elle est dans la poche du bon Dieu. Donc le bon Dieu prend la clé dans sa poche à lui et la met dans la serrure. Bon. Est-ce que je suis capable après de tourner cette clé par mes propres forces? Non, parce que je suis trop faible. Il faut encore que Dieu tourne la clé pour permettre l'ouverture de la porte. Mais est-ce que je peux au moins par moi-même ouvrir la porte une fois que la serrure n'est plus bloquée par la clé? Non. Même pour ouvrir cette porte, il faut que Dieu me donne la force d'aller jusqu'à la poignée de porte, tourner la poignée de porte et ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Si vous voulez, la phrase de l'évangile qu'on peut utiliser pour en quelque sorte comprendre le traité sur la grâce, c'est ça. Sine me nihil potestis facere. Sans moi, vous pouvez rien faire. Il n'a pas dit sans moi, vous aurez du mal, ça sera plus long pour venir à moi. Sans moi, vous pouvez rien faire. Nihil. Nihil, ça veut dire rien. Nada. Nothing. Pour la langue que vous voulez, c'est la foi catholique qui l'enseigne. Sans la grâce du bon Dieu, je ne peux rien faire. Et donc, il faut présupposer un secours gratuit de Dieu qui meuve l'âme antérieurement, lui inspire le propos de bien faire. Le propos du bien à faire. Pourquoi? Parce que Dieu est tout simplement la cause motrice absolument première. Il est le premier moteur. Il est la première intelligence. Il est la première cause. Il est l'intelligence qui permet l'ordre du monde. Hein, si vous voulez, c'est comme, si vous voulez, tous les barreaux. Imaginez une corde à nœuds. On prend des exemples comme ça. Imaginez une corde à nœuds qui monte vers le plafond ou vers l'étage. Il faut que vous preniez escalader cette corde à nœuds pour aller à l'étage supérieur parce qu'il n'y a plus d'escalier. Bon. Eh bien, il y a 10 nœuds pour arriver là-haut, alors on monte au premier nœud, après au deuxième, il faut faire les 10 nœuds pour arriver à l'étage supérieur. Bon, ben imaginez qu'en haut, une personne avec une hache coupe la corde. Vous êtes au sixième nœud. Et coupe la corde, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous tombez. Et vous ne pouvez plus atteindre l'étage supérieur. Ah, mais j'ai déjà fait 6 nœuds. Ça ne change rien, monsieur. Même si vous étiez au neuvième nœud, même si vous étiez entre le neuvième et le dixième nœud, du moment que en haut, un homme a pris sa hache pour couper la corde, vous tombez, quelle que soit la hauteur que vous avez atteinte. Vous pouviez être au premier nœud ou au neuvième nœud, du moment que vous n'êtes pas au dixième nœud, vous n'avez pas atteint l'étage supérieur, si la corde est coupée, tout le monde descend. Et c'est ce que dit saint Thomas, Dieu étant la cause motrice absolument première, c'est sous sa motion que toute chose se porte vers lui, sous la raison générale de bien, selon laquelle chaque être tend à s'assimiler à Dieu à sa manière propre. Alors, il y a encore beaucoup de choses dans cet article qu'il faut bien comprendre. Voilà ce que dit saint Thomas, donc page 80 sur le polycopier. L'homme ne peut, dit saint Thomas, ne peut se préparer à recevoir la lumière de la grâce sans un secours gratuit de Dieu exerçant sur lui sa motion intérieure. Dieu nous donne l'être et l'agir. Il ne peut pas nous donner l'agir sans nous donner d'abord l'être. Si Dieu ne nous maintient pas en vie, comment est-ce que je vais agir? Et pour agir, il faut commencer par être vivant. Qui vous donne la vie? Qui vous maintient dans la vie? Le bonheur ne se contente pas de nous donner la vie. Il nous la maintient. Il nous maintient dans cette vie. Le bonheur ne se contente pas de nous donner une vie surnaturelle par la grâce sanctifiante. Il nous maintient dans la grâce surnaturelle par toutes les grâces qu'il nous donne à longueur de journée, à condition que je les accepte. Le problème, c'est qu'il y a quand même le libre arbitre qui joue et je peux refuser la grâce du bon Dieu. Et si je refuse la grâce du bon Dieu, ben, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui se passe. Je n'avance plus. La conversion de l'homme à Dieu se fait par le libre arbitre, et en ce sens, il est prescrit à l'homme de se tourner vers Dieu. Mais pour se tourner vers Dieu, il a besoin d'une grâce. Le libre arbitre, dit saint Thomas, ne peut se tourner vers Dieu si Dieu ne le tourne vers lui. Et il cite le prophète Jérémie, chapitre 31, verset 18, un verset très connu, « Faites-moi revenir et je reviendrai, car vous êtes le Seigneur mon Dieu. » Et dans les Lamentations, chapitre 5 de Jérémie, verset 21, « Faites-nous revenir à vous, Seigneur, et nous reviendrons. » On retrouve toujours la même chose, cette phrase donc, qu'on trouve en Saint Jean, je l'ai déjà cité plusieurs fois, Saint Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'homme ne peut rien faire s'il n'est mû par Dieu. » C'est pourquoi, lorsqu'on dit que l'homme fait ce qui est en son pouvoir, on veut dire « en tant qu'il est mû par Dieu ». Il appartient en effet à l'homme de préparer son âme parce qu'il le fait par son libre arbitre. Mais il ne peut le faire sans l'aide de Dieu qui le meut et l'attire à lui. Donc Dieu est celui qui va déjà m'attirer au début. Je ne suis pas capable de me mettre même au début du chemin qui me mène vers le bon Dieu sans la grâce du bon Dieu. Je suis au fond de mon puits, je ne peux pas sortir, le bon Dieu me tend une corde, ça ne suffit pas. Il faut encore que le bon Dieu me donne une grâce nécessaire pour que je lutte contre mon orgueil et que j'accepte de dire « je ne peux pas m'en tirer par moi-même, il faut que je prenne cette corde et le bon Dieu va me tirer de là ». C'est ce qui va se passer effectivement. Je prends la corde, je la serre bien fort et le bon Dieu me tire du puits. Mais est-ce que je peux par mes propres forces saisir la corde? Non. Parce que pour saisir la corde, il faut un acte d'humilité. C'est déjà un acte surnaturel en tant que tel. C'est une humilité surnaturelle dont on parle là, et donc il faut que le bon Dieu intervienne. Elle me dit, même chez l'abbé, c'est terrible avec ce traité, parce que certaines personnes me disent, même chez l'abbé, le traité de saint Thomas d'Aquin sur la somme théologique sur la grâce est extrêmement décourageant. Non, c'est pas extrêmement décourageant du tout, ça dépend comment on le prend. Si on le prend avec une lecture purement humaine, oui, c'est très décourageant. Mais si au contraire, on comprend que sans le bon Dieu, on ne peut rien faire, on réalise en même temps que le bon Dieu, dans sa miséricorde, ne refuse jamais sa grâce. Et donc, je sais que je peux toujours compter sur la grâce du bon Dieu. Si je la demande avec persévérance et humilité, que Dieu me permettra de la demander déjà avec persévérance et humilité. Je ne peux pas compter sur moi. Les gens qui comptent sur les hommes, ils sont toujours déçus d'un jour, d'une façon ou d'une autre. Il n'y a qu'en comptant sur le bon Dieu qu'on peut être sûr d'arriver au bout. On ne peut pas compter sur nos propres forces. Donc, rappelez-vous cette phrase extrêmement importante. Je pense qu'il y a deux phrases importantes pour nous aider à comprendre ce traité sur la grâce. Première phrase importante, « Nul ne vient à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ça, c'est dans Saint Jean, chapitre 6, verset 44. Et deuxième phrase, « Sans moi, vous ne pourriez rien faire. » C'est aussi en Saint Jean, chapitre 15, verset 5. Donc, pour nous disposer à recevoir la grâce habituelle, nous avons besoin d'une impulsion secrète qui fait mouvoir notre âme en lui imprimant une sainte résolution. Voilà. Donc, saint Thomas va donner un exemple. Tel on voit un général d'armée poussé à la victoire par son mouvement propre, les soldats qui cependant se rangent à la suite d'une enseigne particulière sous l'impulsion de chefs d'intérêt inférieurs, tel le premier moteur de l'univers porte vers la fin dernière toutes les créatures que des moteurs secondaires font mouvoir vers des fins prochaines. Celui qui tire la corde, c'est le bon Dieu. Et moi, je m'accroche à la corde avec sa grâce. Dieu convertit tout à lui. Aucun homme donc ne peut se tourner vers le bon Dieu que par l'action même de Dieu. Alors attention, il faut faire attention. Il y a un point important, c'est qu'il ne faut pas détruire avec cette doctrine le libre arbitre. Il existe. L'homme se prépare néanmoins à la grâce par son libre arbitre. Et c'est pour cette raison qu'il est dit dans l'Écriture, convertissez-vous à moi et je me convertirai à vous. Mais le libre arbitre, ne se tourne lui-même vers Dieu que par l'impulsion qu'il en reçoit. Et voilà pourquoi il est pareillement écrit, toujours en Jérémie, « Convertissez-moi et je me convertirai. » L'homme ne peut rien faire que par le mouvement qu'il reçoit de Dieu. Alors on va, l'objection toujours la même qu'on entend tout le temps, c'est à l'homme de préparer son âme. Et Dieu va répondre justement que l'homme ne, certes doit préparer son âme, mais sans doute c'est à l'homme de préparer son âme, mais puisqu'il la prépare par son libre arbitre, c'est vrai, il ne peut pas cependant la préparer sans le secours de Dieu. Le secours de Dieu va agir sur mon libre arbitre pour qu'avec l'usage de ce libre arbitre, je puisse préparer mon âme. Il y a encore un texte du Concile de Trente qui est utile, je crois, pour expliquer. Si quelqu'un dit que sans la grâce provenant de l'Esprit Saint qui éclaire et qui fortifie, l'homme peut croire, espérer, aimer, se repentir comme il faut pour recevoir la grâce de la justification, qu'il soit anathème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans la grâce du bon Dieu, eh bien, je ne peux pas croire, je ne peux pas espérer, je ne peux pas aimer, je ne peux pas me repentir de façon surnaturelle et je ne peux pas recevoir la grâce de la justification. Tout vient de Dieu. Alors, courage, il faut s'accrocher, on n'a pas encore fini l'article, on n'a pas encore fini la question 109, hein. Il y a encore plusieurs articles dans cette question, c'est une question fondamentale, puisqu'il y a 10 articles en tout. Et je pense que cette question 109 de la prima secundae, la question sur la grâce, donc la grande question de saint Thomas d'Aquin sur la grâce, est certainement une des questions les plus importantes. Donc, la nécessité de la grâce. Tout le traité de la grâce s'accroche à cette question 109 de la nécessité de la grâce. Voilà, donc je vais arrêter là parce que, comme je fais pas mal de choses aujourd'hui, de gracias, mais en même temps, encore une fois, ne vous découragez pas, travaillez. Vous avez besoin de travailler, chacun a besoin de travailler. Moi, j'ai besoin de travailler pour préparer ces cours et j'essaie de le faire le moins mal possible. Mais vous avez à travailler aussi pour utiliser ces cours. Je l'ai déjà dit, au minimum du minimum, c'est relire les textes pour le prochain cours, la semaine prochaine. Donc relire les trois articles, article 4, article 5 et article 6 de la question 109 de la prima secundae, page 80 et 81 sur le polycopier. Et pour ceux qui ont la somme, n'hésitez pas même carrément à aller dans le texte de la somme pour lire au moins ce qu'on appelle le corpus, c'est le corps de l'article. Pour bien comprendre les choses après les explications que je vous ai données, j'espère, avec la grâce du bon Dieu, que ce sera plus facile pour vous, justement, pour comprendre cette magnifique doctrine de saint Thomas d'Aquin. Nous allons terminer par une prierre à la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.